Bonjour chers auditeurs. Le mois dernier, nous avons évoqué les réalisations de l'URSS, ses premières spatiales. Gagarine, premier vol habité, le premier rendez-vous entre deux cabines spatiales, la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, et le premier piéton de l'espace, Alexei Leonov. Voyons aujourd'hui comment les Américains ont réagi face aux défis soviétiques. En 1957, les fusées américaines ont de modestes performances. Celle qui va envoyer Alan Shepard dans l'espace développe 173 tonnes. On est très loin des 3400 tonnes nécessaires à l'envoi d'un équipage sur la Lune. Depuis les années 60, les fusées Delta puis Delta 2 sont utilisées pour des satellites de communication pesant jusqu'à 8 tonnes. Mais la vraie fusée de l'exploration humaine de l'espace, ce sera la fusée Saturn. Trois versions seront construites. Saturn 1 en 1964, 1B en 1966 et Saturn 5 en 1976, la bête de somme des vols habités. 111 mètres de haut, près de 2900 tonnes, 3400 tonnes de poussée, capable d'envoyer 50 tonnes autour de la Lune. Elle sera tirée 13 fois jusqu'au 13 mai 1973 pour le lancement de Skylab. Elle est assemblée dans un immense building dont les portes font 139 mètres de haut, le VAB, le Vertical Assembly Building, qui pouvait accueillir 4 fusées Saturn V en même temps. Une fois assemblée et testée, elle est transportée par un engin à chenilles, le Crawler. Pesant 2500 tonnes, c'est une plateforme de 40 mètres par 35 mètres qui transporte les 5400 tonnes du couple fusée-plateforme de lancement et qui met 6 heures pour parcourir les quelques centaines de mètres entre le VAB et le pas de tir numéro 39. La fusée Delta, elle, a effectué son dernier vol le 15 septembre 2018, réalisant là son 100e lancement depuis son vol inaugural. Et elle a son actif 100% de réussite depuis mai 1997. Sa remplaçante est la Delta 4 Heavy, qui pourrait être utilisée pour le retour vers la Lune. Les Américains ont construit pour ce programme des stations de suivi, au nombre de 24, disséminées sur l'ensemble de la planète, afin de suivre en permanence l'évolution du vaisseau, du tir jusqu'au désorbitage. Voyons, avant d'attaquer la conquête de la Lune, quels sont les satellites qui existent, les satellites et sondes spatiales. En orbite terrestre, ont été placés déjà d'abord des satellites pour étudier la météorologie. Le premier, c'était TIROS-1. TIROS, ça voulait dire Television Infrared Observational Satellite, qui inaugure le 1er avril 60 la météorologie spatiale. 9 TIROS seront tirés jusqu'en 1965. Ils sont relayés par les 7 exemplaires des Nimbus et en 70 par le satellite ITOS, Improved TIROS Operational Satellite, dont la série sera renommée NOAA du nom de l'organisme chargé de leur exploitation, la National Oceanic and Atmospheric Administration. On a tiré aussi beaucoup de satellites militaires. Les premiers sont la série MIDAS en 60 et SAMOS en 62, pour faire des mesures infrarouges capables de détecter des lancements de fusées. Et une série Vela Hotel en 63 pour la détection des explosions nucléaires dans l'espace. Des satellites vraiment très ciblés. Il y a aussi des satellites d'exploration de la Terre et du système solaire. Et on a l'Orbital OSO, Orbital Solar Observatory, pour l'étude des rayonnements du Soleil, et OGO, Orbital Geophysical Observatory, pour les études géophysiques, donc autour de la Terre. Et Landsat, 7 satellites entre 1972 et 1999, pour la cartographie et la surveillance d'écosystèmes. Après la météorologie, exploitation des satellites, ce sont les satellites de télécommunication. SCORE en 58, Courrier en 60, Westford en 63, avec un projet un petit peu irréel de créer une ionosphère artificielle avec des millions d'aiguilles placées à 3500 km d'altitude qui réfléchiraient les ondes radio. Projet abandonné après le lancement. Et puis, dont tout le monde a bénéficié, la Mondiovision, avec Telstar 1, le 11 juillet 62, qui fait la première transmission d'images de télévision au-dessus de l'Atlantique. La communication par satellite est issue des travaux des Bell Labs, à qui on doit aussi le radiotransistor, le téléphone cellulaire, les cellules radiophotovoltaïques, le laser et la transmission digitale. Puis on aura les satellites des relais, des SIMCOM, des ECHO et TDRSS, Tracking and Data Relay Satellite System, qui assure le relais entre la Station Spatiale Internationale, le télescope Hubble et plusieurs satellites d'observation. 13 satellites sont lancés entre 1983 et 2017. Après ces satellites, on a lancé des satellites pour explorer la Lune et le début de la conquête des espaces interplanétaires. Les premières missions vers la Lune sont confiées aux sondes Pioneer, avec le but de les survoler. Si Pioneer 0 est victime de l'explosion du lanceur Thor-Hubble, Pioneer 1 permet d'aller faire des mesures de la ceinture de Van Allen. Les deux lancements suivants sont malheureusement des échecs. C'est Pioneer 4 qui, lancé le 3 mars 1959, sera la première à s'approcher de la Lune qu'elle va frôler à 59 000 km. Elle sera aussi la première sonde à s'échapper d'attraction terrestre. La première sonde à dépasser la Lune est Pioneer 5, le 11 mars 1960, qui sera suivie pendant 36 millions de kilomètres. Malheureusement, les autres sondes sont des échecs. Elles sont détruites au lancement. Et en 1961, la décision majeure du programme intervient. Un mois après le vol de Gagarine et une semaine seulement après celui d'Alan Shepard, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, reçoit le rapport du patron de la NASA, à l'époque James Beggs, pour fixer le moyen de battre les Russes. Sur cette base, et alors qu'il avait déjà déclaré peu auparavant « Si nous pouvons être sur la Lune avant les Russes, alors il faut y aller. » Le 25 mai 1961, il propose un discours historique devant le Congrès à Washington. « Aujourd'hui, l'espace nous est ouvert. Il est temps désormais de s'engager à nouveau dans une grande entreprise et de prendre la tête dans les activités spatiales, qui sont les clés de notre avenir sur Terre. Nous devons aller dans l'espace parce que les hommes libres doivent participer à toutes les réalisations de l'humanité. » Je pense que notre nation doit se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, de poser un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf. Aucun projet spatial dans cette période ne sera plus important pour l'exploration à long terme de l'espace et aucun ne sera aussi difficile et coûteux à réaliser. Pour lui, l'espace est la nouvelle frontière. Il reprendra ce discours en septembre 1962 au Stadium Rice de Houston, au Texas, ville clé dans le tissu industriel aéronautique américain. Il lance ce que l'on appellera la course à la Lune, qui est en fait une nouvelle phase de la guerre froide. Pour honorer cet engagement politique majeur, le budget américain consacré au programme Apollo va passer de 100 000 dollars en 1960, soit 0,5% du PIB des États-Unis, à 5 milliards de dollars en 1967, 4,5% du PIB. Le premier chiffrage de cette aventure en 1960 était de 8 milliards de dollars, ce qui avait rebuté le président Eisenhower. Il ne voyait pas la nécessité de poursuivre l'effort spatial, qu'il considérait comme un programme fracassant et extraordinairement dispendieux. Et au total, entre 1960 et 1973, la NASA investira 24 milliards de dollars, alimentant jusqu'à 360 000 techniciens répartis dans 25 000 sociétés. La première ébauche d'une fusée capable d'envoyer des hommes sur Lune s'appelle alors Juno 5. Elle deviendra C5 à fin 61, puis Saturne. Plusieurs séries de sondes automatiques américaines ont repéré le terrain avant l'envoi d'hommes sur le sol lunaire. Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter. Ranger, le Vagabond, entre 61 et 65, ce sont des sondes de 367 kg qui ont permis de cartographier la surface lunaire et surtout d'y choisir des sites d'alunissage. Les cinq premiers Ranger connurent jusqu'en 62 des problèmes au cours de la mission. Ranger 6 est le premier à parvenir sur la Lune en février 64, mais n'envoya aucune photo de la surface avant de s'écraser dans la mer de Tranquillité, qui sera le futur site d'Apollo 11. Ranger 7 est la première réussite du programme. La sonde envoya, le 31 juillet 64, 4300 photos de la mer des nuages avant de s'y écraser, suivi de Ranger 8, 7000 photos des mers de la Tranquillité, et Ranger 9, en 65, dans le cratère Alphonsus. L'alunissage, ou plutôt le crash à la surface, est retransmis en direct par les chaînes de télévision américaines. On va revivre un même moment d'émotion avec les images de Change 4 se posant en direct sur la face cachée de la Lune début 2019. Au total, 14 000 images d'une résolution de 25 cm seront collectées par l'émission Ranger. Elles sont suivies par le programme Surveyor, dont le but est de réaliser des alunissages pour vérifier la maîtrise de cette phase et surtout la capacité du sol lunaire à recevoir des modules habités pesant plusieurs tonnes. Sur 7 tentatives, 5 posées en douceur sont réussies entre mai 66 et janvier 68. Les sondes feront des photos de la surface et des analyses chimiques du sol lunaire. Surveyor 1, le 31 mai 66, transmet 11 000 photos au cours de 219 jours de survie de la sonde, ce qui sera le record absolu pour le programme Surveyor. Surveyor 2 aura moins de chance. Elle sera détruite en septembre pendant son vol vers la Lune. Surveyor 3, en avril 67, fera le premier examen de la consistance du sol lunaire au moyen d'une petite pelle et envoie plus de 6300 photos de l'océan des tempêtes. Surveyor 3 sera examiné par les astronautes d'Apollo 12 qui se poseront à proximité 944 jours plus tard. Surveyor 4 s'écrase sur la Lune, la NASA perdant le contact à 15 km de la surface, comme quoi dans l'espace rien n'est jamais acquis. Surveyor 5, le 11 septembre 67, fera la première analyse du sol lunaire au moyen du rayonnement alpha et prend plus de 19 000 photos dans la mer de la Tranquillité. Surveyor 6, en novembre 67, en prend 30 000. Elle réalisera, 7 jours après son posé, le premier redécollage à surface lunaire, un saut de puce de 23 mètres, avec un double but, étudier les effets du souffle lunaire, du souffle moteur sur le sol lunaire et réaliser des photos stéréo du site. Un petit saut pour une sonde, un grand bond pour la technologie, pour paraphraser une déclaration historique dont on reparlera un peu plus tard. Et la dernière mission, c'est Surveyor 7, en 1968, qui détectera un faisceau laser d'un watt émis depuis la Terre. Et ça, ce sont des opérations scientifiques qui seront reprises par tous les programmes Apollo. Lunar Orbiter, entre 66 et 67, est la dernière série d'émissions préparatoires. Les 5 Lunar Orbiters sont des sondes de 368 kg en orbite lunaire qui vont établir des cartes très précises du sol lunaire pour pouvoir choisir les sites d'alunissage des futures missions Apollo. Lunar Orbiter 1 réalise la première photo de la Terre vue de la Lune le 14 août 66, ainsi que des photos des deux faces de la Lune. Et elle va être précipitée sur la Lune le 29 octobre, comme toutes les suivantes, pour ne pas risquer de perturber les missions qui vont venir, dont les missions Apollo. Puis on aura Apollo 2 en novembre 66, Orbiter 2, Lunar Orbiter 3, qui photographie aussi les sites potentiels d'alunissage. Et les Lunar Orbiter 4 et 5 vont faire une couverture complète de la face visible et complète les photos de la face cachée de la Lune. Le coût de ce programme, 200 millions de dollars, fut largement amorti par les renseignements qu'il a permis de collecter. Mais la Lune n'était pas la seule destination des sondes. Voyons maintenant les explorateurs de Mars. Mariner 4, en juillet 65, fit le premier survol de Mars à 16 000 km d'altitude et envoie les premières images, suivies ensuite par Mariner 6 et 7 en 1969. Mariner 1, lui, va explorer Vénus en 1962. Elle fait le premier survol. Et Mariner 2 passe à 35 000 km de la surface. Et Mariner 5, elle, atteint Vénus en mars 66. Mercure n'est pas oublié. Mariner 10 fait son premier survol en novembre 73. Et ça donne aussi des informations et ça permet de développer la technique pour les vols lunaires. Mais en parallèle, on envoie des sondes dans l'espace, on les fait poser sur des planètes, et un des sujets de préoccupation des biologistes, c'est la contamination microbienne. Malgré toutes les précautions prises lors de la fabrication des sondes planétaires, on sait que plusieurs milliers de microbes terrestres ont débarqué sur Mars, passagers clandestins de Mars Pathfinder en 1997, tout comme ses illustres prédécesseurs, Spirit, Curiosity, Opportunity. Des expériences menées par la NASA ont montré que des bactéries survivaient à l'extérieur de l'atmosphère et que des formes de bactéries inconnues avaient été trouvées dans des systèmes de l'ISS ramenés sur Terre. La NASA a d'ailleurs créé un service, le Bureau de protection planétaire, qui a pour mission de protéger les planètes contre des microbes terriens embarqués sur tout engin parti dans l'espace, éviter dans le ciel les catastrophes biologiques qui ont suivi toutes les découvertes de nouveaux territoires sur Terre. Un traité international a été signé par toutes les nations qui se sont engagées à empêcher toute contamination dont l'application stricte est surveillée par le COSPAR, dont on a déjà parlé. Bien sûr, l'environnement spatial et le rayonnement ultraviolet se chargera de détruire la majorité de ces microbes, inadaptés au vide et au rayonnement ionisant que l'on trouve à la surface des planètes. Mais on verra plus tard qu'Apollo a fait quelques découvertes de ce côté-là. Le COSPAR a défini 5 niveaux de protection appliqués aux engins qui se poseront sur des corps célestes, qui vont du plus exigeant pour les sondes amenées à retourner des échantillons sur Terre, au moins sévère pour les engins allant sur les corps les plus éloignés, comme Pluton, ou les plus près du Soleil, comme Mercure. Donc nous avons parlé des sondes, mais voyons un petit peu ce qui va se passer pour les astronautes. Voyons quels sont les entraînements que les astronautes vont avoir à affronter. Parce que pendant que ces sondes parcouraient l'espace entre la Terre et la Lune, puis vers le Soleil, la NASA entraînait les hommes à affronter le vide spatial. Car subir les accélérations du décollage était une étape cruciale. Et il fut construit des centrifugeuses pour tester les réactions des pilotes soumis à plusieurs fois la pesanteur terrestre, qui est égale à 1G, allant jusqu'à 15G lors des décollages. D'autres engins simulaient le vol dans toutes les attitudes, tournant sur eux-mêmes dans toutes les directions. Des avions, effectuant des vols paraboliques, simulent la sensation d'apesanteur. Les premières expériences françaises sont effectuées dès 1946 par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, à bord d'un bimoteur, Martinet. En 89, pour former les spationautes Jean-François Clairvoy et Patrick Baudry, le CNES affrète une caravelle du centre d'essai en vol pour effectuer des vols paraboliques. Elle effectuera 3770 paraboles et laissera la place en 1995 à un KC-135, un avion ravitailleur basé sur le Boeing 707 loué à la NASA. De 1997 à 2014, un Airbus A300 de la société Novespace assurera ce service et il a été remplacé en juin 2014 par un A310. Ces appareils sont baptisés 0G, ils sont basés à Toulouse, et font plusieurs paraboles de 22 secondes, cumulant jusqu'à 4 minutes et demie d'apesanteur par sortie. Le ticket à bord est de 6 000 euros, très loin des 250 000 euros demandés par Virgin Galactic pour la même sensation dans son programme d'ouverture de l'espace au public. Depuis sa mise en service, cet appareil A310 a effectué près de 2900 paraboles, dont 260 à titre privé, le tournage de films ou des découvertes sur l'apesanteur. Fin 2018, Thomas Pesquet, après ses 6 mois passés dans la Station Spatiale Internationale, est devenu pilote à Novespace. Mais si la majorité des entraînements se passent bien, on a aussi eu à déplorer des décès lors de ces entraînements. À fin 1968, 5 astronomes américains y avaient trouvé la mort. Theodore Freeman en 64, Charles Bassey et Elliot Sea en 66, Clifton Williams et Robert Lawrence en 68. Beaucoup l'ont vu de près, comme Neil Armstrong, qui a échappé plusieurs fois. Lors du crash de son avion pendant la guerre de Corée, quand sa maison du Texas a brûlé en 64, au moment de la perte de contrôle de la cabine Gemini 8 en 66, et quand le prototype du Lunar Module qu'il pilotait s'est écrasé en mai 68 et il s'est éjecté à 0,1 seconde avant le crash fatal. Sans oublier tous ceux qui sont morts en mission, dont nous aurons l'occasion d'évoquer les circonstances.
De la terre, est-ce que dans tes voyages tu vois le vieux monsieur qui descend des nuages avec des jouets merveilleux? Dis monsieur Gordon Cooper, toi qui vas plus plus haut que l'air. Dis-lui qu'une guitare ferait tout mon bonheur. Ou la télé Monsieur Copain, je voudrais que sur la terre tout le monde ait des images comme dans mes rêves bleus, qu'il n'y ait plus d'orage, que papa soit jamais vieux. Lorsque tu seras là-haut, demande-lui si c'est pas trop. Quand se cachera la lune, qu'il cueille au firmament une étoile pour ma.
Avant l'envoi d'un homme dans l'espace, les Américains ont envoyé en vol, avec une fusée Jupiter tout d'abord, un singe écureuil le 12 décembre 1958. Mais la capsule All Reliable et son passager sont perdus. Pour le programme Mercury, la NASA sélectionne le 7 avril 1959 sept futurs astronautes, les Original Seven, Walter Willis Schirra, Virgil Gus Grissom, Dick Slayton, John Glenn, Gordon Cooper, Scott Carpenter et Alan Shepard. Critère de sélection, au-delà d'une brillante carrière comme pilote militaire, faire moins de 1,70 m et peser au plus 70 kg. La mission du programme, l'étude du comportement des hommes dans l'espace et l'aménagement de la cabine. Par rapport aux 2,6 tonnes du Soyouz de Gagarine, la capsule Mercury fait un peu chétive, 1 tonne 100 sur la balance. Preuve, déjà, de l'avance technologique des Américains, capables de miniaturiser les composants, à défaut de miniaturiser les occupants. Mais l'habitacle ne fait quand même que 1 mètre, 1,7 mètre cube, et ses occupants y sont sanglés, les genoux pliés, pour résister aux 11 G de la rentrée atmosphérique. La première capsule Mercury est lancée le 28 mai 59, embarquant les singes Hubble et Baker pour un vol balistique. Et le 9 septembre 59, le singe Sam est passager d'une capsule Mercury lancée par une fusée Atlas D, puis un autre singe, Miss Sam, le 4 décembre 59, qui sont tous les deux récupérés. Vint le tour, plus médiatisé, du chimpanzé Ham, le 31 janvier 61, avec une fusée Redstone. Il va atteindre 252 km d'altitude. Son vrai nom était Chang, mais comme ce nom était porté par une forte proportion de la colonie chinoise aux USA, il faut rebaptiser HAM, Holoman Aeromical, Aero Medical. D'autres vols non habités ont lieu entre le 21 février et le 25 avril 61, avec des fusées Redstone et des fusées Atlas. Malgré un échec du binôme Mercury-Atlas le 25 avril, la voie au vol humain est ouverte. Le premier Américain dans l'espace sera Alan B. Shepard Jr. sur Freedom 7, Liberté 7. Le 5 mai 61, avec une fusée Redstone 3. Le premier vol était prévu en mars, mais le matériel n'était pas prêt, et les Américains se font griller cette première par les Soviétiques, en avril. À 5h du matin, le 5 mai, Shepard est sanglé dans sa capsule. Décollage prévu à 7h20, puis repoussé à 9h, pour cause de météo et de problèmes techniques. À 2 minutes du départ, nouvel arrêt, problème de surpression. Shepard, qui se rend compte que le contrôle au sol hésite entre purger la surpression ou annuler la mission, les appelle. « Je suis plus cool que vous. Réglez votre petit problème et allume-moi donc ce pétard. » Il atteindra 187 km d'altitude pour un vol de 15 minutes. Il est reçu par le président des États-Unis, JF Kennedy, qui lui remet la Distinguished Service Medal Award 3 jours après le vol. Virgil Gus Grissom sur Liberty Bell 7 et une fusée Redstone 4 le suit le 21 juillet. Mais ces deux vols n'étaient que des vols paraboliques, 185 puis 190 km d'altitude, moins de 500 km de distance et vols d'à peine 15 minutes. Mais à l'amérissage, la capsule de Grissom se remplit d'eau et elle coule, manquant de peu noyer Grissom. Cette capsule sera récupérée au fond de l'océan le 20 juillet 1999 pour les 30 ans du vol d'Apollo 11. Après son vol, Alan Shepard, lui, est chargé de diriger l'équipe qui crée les combinaisons des astronautes. Et c'est un fabricant de lingerie qui les réalisera ces combinaisons spéciales. Une fusée Atlas Cass fait faire à un astronaute robot le premier vol orbital. Je rappelle, les premiers étaient suborbitaux. Premier vol orbital américain, le 13 septembre 1961. Et toujours par souci de précaution, le premier vol orbital habité, lancé par une fusée Atlas 6, est effectué par un autre chimpanzé, Enos, homme en grec, le 29 novembre 1961. Après deux orbites, sa mission est interrompue prématurément, suite à des faillances techniques. Et le pauvre singe va souffrir d'anomalies de fonctionnement du système de récompense avec lequel on l'avait entraîné. Car il reçoit en récompense, à chaque action correctement réalisée, une décharge électrique, au lieu de pilules de banane. Les trois premiers tours de la Terre sont effectués par John Glenn, sur Mercury 6 Friendship 7, fusée Atlas 6, le 20 février 1962. Les astronautes ne manquaient pas d'humour. John Glenn aimait à rappeler que, lorsqu'il était en orbite, il avait eu cette pensée. Chaque partie de cette fusée a été fournie par ceux qui ont proposé l'offre la plus basse. Petite remarque, tous les vaisseaux de cette époque portaient le numéro 7, par simple superstition. Puis vinrent Scott Carpenter, Mercury 7, le 24 mai 1962, qui effectue les premières manœuvres pilotées. Walter Schirra, Mercury 8, le 3 octobre 1962, qui fait un vol de 9 heures 12 minutes et 6 révolutions. Et enfin, la dernière mission Mercury, Gordon Cooper, le 15 mai 1963, qui le premier passe plus d'une journée dans l'espace, exactement 34h20, en faisant 22 révolutions. Opération qui a inspiré Henri Salvador, dont nous venons d'écouter la belle chanson. 2 millions de personnes ont travaillé sur le programme Mercury. Le coût de ce programme était chiffré à près de 400 millions de dollars en 1962, soit l'équivalent de 3 milliards de dollars actuels. À l'époque, le lancement d'une capsule Mercury fait appel à un programme de 1,5 million d'instructions. Elles seront 100 millions pour le lancement de l'ISS. Lors de l'amérissage, les capsules Mercury déployaient un amortisseur de style airbag, renforcé avec des fibres de carbone pour limiter le choc, système qui sera abandonné par la suite. Et dans le film James Bond contre le Dr No, le méchant Dr No veut perturber le lancement des capsules Mercury, ce que James Bond empêchera, bien évidemment. Après ces programmes Mercury, vint le programme Gemini. Mercury n'embarquait qu'un seul passager. Et les études avaient montré que la réussite d'une mission spatiale demandait la participation de 3 personnes à bord, comme, à l'époque, le pilotage des avions commerciaux. Ce qui permet, entre autres, de dégager une majorité en cas de conflit sur un problème à résoudre. La NASA procédant par étapes, la suivante fut de tester des cabines biplaces, d'où le programme Gemini, les Gémeaux, lancé en 1961. De plus, début 1962, la NASA adopte le principe d'un rendez-vous orbital lunaire, le LOR, Lunar Orbital Rendez-vous. Rendez-vous est un terme français que les Américains ont réutilisé tel quel. Le train spatial est composé de 3 éléments qui se séparent en orbite lunaire, l'un à l'anse posée sur la Lune, tandis que les 2 autres, le module de commande et le module de service, qui contient l'ensemble propulseur, les entendent en orbite pour ramener l'équipage sur Terre. Le module allant se poser sur la Lune, le LEM, le Lunar Module, de 16 tonnes, est composé de 2 éléments, lui, une cabine et un module de descente. Le moteur du module contrôle la descente. La cabine sert d'habitat à l'équipage allant se poser et est équipée du moteur de remontée, leur permettant de rejoindre l'orbite du commande module resté en attente autour de la Lune, avec un astronaute à son bord. Et seul le commande module, petite capsule de 5 tonnes, ramenant les trois astronautes, reviendra sur Terre. Tous les autres éléments sont consommés durant la mission, soit 99% de l'ensemble ayant décollé de Cap Canaveral. Il fallait, pour réaliser toutes ces opérations, maîtriser les rendez-vous dans l'espace. La mission des Gemini sera aussi de tester la navigation, les rendez-vous spatiaux et les vols de longue durée. Cette cabine pour deux est légèrement plus habitable que la Mercury, 2,5 m. Mais les astronautes restent là aussi les jambes repliées. Quant à la fusée, ce sera Titan II, un missile intercontinental recyclé de près de 200 tonnes de poussée. Les fusées Atlas de Mercury n'étaient pas assez puissantes, elles faisaient 170 tonnes de poussée, pour satelliser une capsule biplace. Gemini 1 et Gemini 2, en avril 64 et janvier 65, sont des lancements à vide et ils atteignent 160 mètres d'altitude. Gemini 3 est le premier vol piloté, le 23 mars 65, avec à son bord John Young et Virgin Grissom, qui font trois orbites. À l'issue de ce vol, Grissom déclarera « Si nous périssons, nous souhaitons que le public l'accepte. La conquête de l'espace n'est pas sans risque. » Phase prophétique, car Grissom allait être victime d'un accident un peu plus tard. Gemini 4, 3 juin 65. L'objectif initial de cette mission était de se rapprocher du deuxième étage du lanceur Titan II. Mais le radar n'était pas au point et la NASA transforme ce vol en une grande première américaine, la sortie dans l'espace d'Edward White en juin 65 pendant 28 minutes, soit 8 minutes de plus que Leonov, le premier piéton de l'espace soviétique qui avait fait ce vol le 18 mars. Le pilote James McDivitt, lui, est resté à bord de la capsule. White est relié à la cabine par un cordon de 15 mètres et utilise pour se déplacer un pistolet à gaz. Gemini 5, le 21 août 1965, voit Gordon et Conrad faire le tour de la Terre et voir la Terre depuis l'espace, à 1000 km d'altitude, identifiant continents et chaînes de montagnes. Ils battent le record de l'époque de durée dans l'espace, 8 jours, près de 200 heures de vol. Il était prévu un rendez-vous avec une cible Agena, un lanceur spécialement aménagé, mais celle-ci n'était pas disponible. Aussi, un rendez-vous est fait avec une cible lancée depuis leur vaisseau, mais un problème retarde le rendez-vous qui échoue. Gemini 6, 15 décembre 65, Walter Schirra et Tom Strafford. Rendez-vous prévu avec une cible Agena, mais celle-ci explose au décollage. Aussi, le rendez-vous est décidé avec Gemini 7, rebaptisé immédiatement Gemini 6A, piloté par Frank Borman et James Lovell, qui part 11 jours plus tôt que Gemini 6. Volant à 30 000 km/h, les vaisseaux spéciaux sont rapprochés de 40 mètres en faisant le premier rendez-vous orbital américain, le 15 décembre 65. Le premier amarrage de deux vaisseaux américains est fait avec Gemini 8 et sa cible Agena le 16 mars 66. Mais un moteur d'altitude d'Agena reste bloqué en position ouverte et l'ensemble tourne à un tour par seconde. Imaginez ce que ça peut représenter comme manège, donnant des sueurs froides à l'équipage. Neil Armstrong et David Scott arrivent à maîtriser les deux vaisseaux assemblés, puis rentrent en urgence sur Terre, ou plutôt sur mer. La tentative suivante avec Gemini 9 ne put être réalisée. La première cible rate son décollage, et la coiffe de la deuxième cible, Gemini 9A, ne s'étant pas détachée, les astronautes Eugene Cernan et Tom Strafford ont en face d'eux, le 3 juin, une cible inaccessible qu'ils baptisèrent l'alligator en colère. Cernan fait une sortie extravéhiculaire, mais parce qu'il a du mal à se mouvoir autour du vaisseau, il se fatigue trop et l'essai d'un fauteuil de l'espace est annulé. Gemini 10, avec John Young et Michael Collins, entre les 18 et 21 juillet 1976, réalise un rendez-vous avec Agena 10, à laquelle elle s'amarre, et le moteur d'Agena 10 est allumé, amenant l'ensemble à 700 km d'altitude. Il se sépare d'Agena 10 et reçoit Agena 8, abandonné par Gemini 8 4 mois plus tôt. Il ne s'y amarre pas, mais Collins fait une sortie extravéhiculaire d'une demi-heure pour récupérer des éléments d'Agena 8. Plusieurs amarrages sont réalisés par Gemini 8 entre les 12 et le 15 septembre 66 avec une cible Agena. Richard Gordon passe 2 heures en dehors de sa capsule Gemini 11 dans laquelle est resté Peter Conrad. Le dernier vol Gemini est celui de Gemini 12 le 11 novembre 66. Au moment d'embarquer dans la capsule, les deux astronautes avaient attaché au dos de leur combinaison spatiale une affiche The End, marquant la fin du programme Gemini. Edward Buzz Aldrin fait deux sorties extravéhiculaires de 2h20 chacune. Au cours de l'une d'elles, Aldrin va attacher un câble à la cible Agena, démontrant la capacité d'un astronaute à effectuer des travaux dans le vide spatial, avec les contraintes et le stress liés à cette situation. Toutes les manœuvres nécessaires au débarquement sur la Lune étaient alors maîtrisées. Les États-Unis étaient maintenant prêts pour faire voler 3 astronautes et les poser sur la Lune. Ce programme a coûté 1,2 milliard de dollars de 1962 au budget américain, mais il a restauré l'honneur de la nation, lui permettant de montrer sa supériorité face à l'URSS. Quelque chose qui a été un petit peu oublié par l'histoire, c'est une coopération manquée. La course à la Lune et le président Kennedy la course à la Lune coûte très cher et le président Kennedy, dès 1963, a proposé une coopération soviétique dans un discours aux Nations Unies. Dans un domaine d'activité, l'espace, où les États-Unis et l'Union soviétique ont des capacités particulières, il y a des possibilités de collaborer et de mettre en commun nos efforts. Offre étudiée sérieusement par Moscou. Mais l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et le climat de méfiance qui s'en est suivi a gêné cette belle idée. Je passe maintenant la parole à M. Christian Tamponnet, qui travaille à l'ESA, l'European Space Agency, sur le support vie des astronautes. Monsieur Christian Tamponnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez travaillé à l'ESA. L'ESA, c'est l'European Space Agency, ou en français l'Agence spatiale européenne, qui, comme son nom l'indique pas, est installée aux Pays-Bas. Et vous avez travaillé sur les systèmes de support vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond le terme de support vie et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur les systèmes de support vie?
D'accord. L'homme, pour vivre, a besoin de respirer, de boire et de manger.
Un minimum, oui.
Donc, et ces trois fonctions principales, lui, sont fournies naturellement sur Terre par les écosystèmes dans lesquels il vit. Mais l'homme, lorsqu'il part dans l'espace, il se coupe de cette source de support vie et on doit donc lui fournir les éléments qui lui sont nécessaires, c'est-à-dire l'air, l'eau et la nourriture. Et il doit, en parallèle, savoir se débarrasser des déchets qu'il produit. Le CO2, l'eau polluée, et puis les déchets organiques. On a commencé les premiers vols dans l'espace, on fournissait l'air avec des bonbonnes d'oxygène, on capturait le CO2 avec de la potasse pour pouvoir le fixer. Les vols étant très faibles, il n'y avait pratiquement pas de nourriture, très peu d'eau.
Oui, les premiers vols, ça durait
quelques heures.
Oui, c'est ça, 108 minutes, je crois, pour Gagarine. Et voilà. Après un jour, deux jours maximum, voilà, les premiers vols.
Et avec l'évolution de la conquête spatiale, le nombre de personnes impliquées a augmenté et la durée du vol a augmenté. Donc, on s'est retrouvé à devoir faire pas mal de choses. Par exemple, il faut savoir que les couches culottes ont été inventées pour les astronautes dans l'espace.
Eh oui.
Et une des conséquences, c'était pour nos enfants sur Terre.
Ah oui.
Voilà.
Et c'est pas le seul exemple de choses que l'on utilise au quotidien et qui viennent de la conquête spatiale.
Tout à fait. Et donc, le principe était donc de fournir l'air, l'eau et la nourriture et de pouvoir après stocker les déchets, le CO2, les eaux polluées,
les eaux usées
et les déchets organiques. Plus le nombre de jours augmente et plus le nombre de personnes impliquées dans le vol spatial augmente, plus la masse à emporter est importante.
Quand on part 6 mois dans l'espace, comme vient de faire Thomas Pesquet, ça représente une quantité énorme de matériel.
Donc, il a fallu développer des systèmes qui nous permettaient de pallier le manque d'éléments nutritifs, d'air, d'oxygène, d'eau et de nourriture, en essayant de faire du recyclage. C'est-à-dire en essayant de retrouver l'oxygène quelque part, l'eau propre quelque part, et des aliments aussi quelque part.
C'est autant qu'on n'a pas à monter là-haut.
Tout à fait. Et les premiers mécanismes ont été de, par exemple, faire de l'hydrolyse de l'eau en oxygène et en hydrogène. On a donc de l'oxygène produit ainsi. Et l'hydrogène va nous servir à réduire le CO2. Donc, on a aussi une méthode qui nous permet, énergétique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie électrique, pour pouvoir fabriquer de l'oxygène et absorber le CO2.
L'énergie électrique, on l'a parce qu'on a des panneaux solaires.
Voilà.
Ou sur certains. Il y a des réacteurs, des satellites qui marchent avec des réacteurs atomiques, et je pense que sur les stations habitées, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas eu, lorsque l'homme est appliqué, on n'en a pas développé.
Il n'y en a pas du tout, c'est trop dangereux.
Voilà, il faudrait être protégé. C'est une question de poids, tout simplement.
Oui, c'est ça. Dans un sous-marin nucléaire, le poids ne compte pas. On peut mettre un mètre de plomb, ça passe. Mm-hmm. Dans l'espace, ça ira pas.
C'est trop lourd.
Ça veut dire que même demain, des réacteurs nucléaires, pour propulser les fusées sur des très longues distances, on n'est même pas sûr qu'on puisse les utiliser.
Alors,
le réacteur soit très très loin.
Voilà, il faudrait éloigner le propulseur de la zone d'habitat.
Comme dans 2001, où c'est l'espace.
Par exemple.
On a la bulle de vie devant et le réacteur est tout au fond.
D'accord.
À 100 mètres derrière. Ou dans Star Trek ou toutes ces séries où on a des vaisseaux qui font plusieurs centaines de mètres.
Tout à fait.
D'accord. Donc, on a bien compris le but, c'est de fournir aux astronautes les moyens de survivre dans l'espace, indépendamment de la protection contre les météorites, contre la chaleur et compagnie, mais survivre biologiquement de ce qu'ils trouvent sur Terre. Donc, ça s'étudie comment, ça?
Donc là, on a développé ce qu'on appelle des méthodes physico-chimiques pour pouvoir faire du recyclage de déchets, transformer des déchets en éléments, disons, nécessaires à l'homme pour survivre. Mais l'idée de départ pour laquelle j'ai commencé à travailler à l'Agence spatiale européenne, c'est de passer à une échelle supérieure, en partant du fait tout simple, c'est que si l'on met par exemple une plante avec l'homme dans l'espace, cette plante va consommer du CO2 et par la photosynthèse et produire de l'oxygène.
Oui.
Cette plante va absorber l'eau du sol, et l'eau du sol est une eau usée ou qui peut être usée, et elle va évaporer une grande quantité d'eau pour pouvoir...
D'eau propre, très pure.
De
vapeur d'eau très pure.
Parce qu'elle a besoin de ce mécanisme pour pouvoir évacuer l'excès de chaleur que la photosynthèse produit. Donc, si on met une plante, on se retrouve avec une source d'oxygène, une consommation de CO2, une consommation d'eau usée, une production d'eau propre, même trop propre d'ailleurs, et... si les plantes sont bien choisies, une source de nourriture.
Exactement. Donc, on est gagnant sur tous les tableaux.
Et donc, on est avec, en introduisant de façon simpliste, de façon générique, une plante, un être photosynthétique dans le système, on a une boucle dans laquelle tous les éléments peuvent être recyclés. L'air, l'eau et la nourriture. Puisque les déchets organiques peuvent bien sûr servir de ferment,
d'engrais
pour la culture de ces plantes.
Comme dans Sol sur Mars.
Comme dans Sol sur Mars, par exemple.
Qui était peut-être un peu exagéré mais c'est un film.
Mais l'approche de fond est la bonne.
Même, oui, d'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est en place. C'est-à-dire que sur les gens qui sont dans la Station Spatiale Internationale, ils ont des plantes à bord
Il y a des plantes à bord. Il y a des plantes qui ont été... il y a eu des expériences américaines, des expériences européennes, je crois que même les Japonais en ont fait aussi, et les Russes, pour pouvoir étudier les premières plantes qui sont allées dans l'espace pour essayer de produire un peu de nourriture de toute façon. Il y a eu des premières études de culture de plantes dans l'espace.
Il y a des astronautes qui ont consommé ça?
Oui, les premiers Russes.
Mais ça, c'est pas ça.
C'était les salades, mais c'était bien sûr. La salade, ça pousse assez facilement, bien sûr, un point de vue nutritif, c'est assez léger. Oui. Mais c'était le début.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à travailler, comme vous, culture de tomates, de pommes de terre, des choses comme ça, de fruits peut-être?
C'est une recherche qui a connu quelques difficultés il y a quelques années parce que c'était plus le besoin n'était pas aussi puissant et l'envie de poursuivre des vols de longue durée et avec beaucoup de monde était assez peu
pas développé.
Pas trop politiquement à la mode. Donc ça peut péricliter, mais ça redémarre actuellement.
Oui, parce qu'on a ils sont 5 ou 6 dans la Station Spatiale Internationale. Mmh. Et demain, on parle de vaisseaux pour aller s'installer autour de la Lune, en faire une base de départ sur Mars, et puis de partir vers Mars. Mmh. Et là, c'est sûr qu'on ne pourra pas amener
la nourriture pour 7 mois.
Tout à fait.
Au départ, enfin 4 même. C'est-à-dire, ça fait 20 mois de voyage, on n'amènera pas des cagettes de patates pour 20 mois.
Tout à fait.
Il faut absolument produire.
Les masses impliquées, si on devait tout amener de terre, sont astronomiques.
Donc, astronomiques, oui. En l'espace, ça va bien. Donc, il faudra absolument
tout à
que
fait.
Ceci marche.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, on a bon espoir.
On a des bons espoirs, mais c'est un domaine extrêmement compliqué. Parce que lorsque l'on met un système vivant autre que l'homme dans la boucle, et donc on crée. L'idée, donc, c'est de créer une sorte d'écosystème fermé dans lequel se trouve l'homme.
Une petite mini-terre autonome.
Voilà, si on peut dire. Et ce qui assure la stabilité du système sur Terre, c'est essentiellement le nombre d'éléments considérés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux. Il y a donc ce qu'on appelle des réseaux trophiques, des réseaux alimentaires. Des chaînes, c'est pas des chaînes, c'est vraiment des réseaux, des maillages énormes qui permettent
d'équilibrer,
de suppléer le système. Si par exemple une maille disparaît, les transferts d'aliments peuvent se faire par d'autres mailles. Dans une chaîne alimentaire, dans un système de support vie, on ne peut pas
faire
énorme. Donc on aura un nombre très limité d'êtres vivants associés à l'homme pour pouvoir faire une boucle de support vie. Mais de ce fait, dans ce cas-là, ça implique un contrôle externe par l'homme du système. Donc la stabilité ne sera pas due à la diversité
biologique,
mais sera due à un contrôle par l'homme du système, ce qui le rend d'autant plus fragile.
Oui, parce que si jamais il y a une vraie rupture, imaginons que pour une raison X ou Y, toutes les plantes périclitent dans l'habitat, c'est la mort des astronautes.
Tout à fait. S'ils n'ont que ça comme source
d'alimentation,
il faudra résoudre ce problème en ayant des réserves ou en ayant d'autres des moyens de secours, de sécurité.
Parce que là, pour aller sur Mars, il n'est pas question de congeler les gens, comme on voit dans 2000 années, c'est l'espace.
Non.
C'est pas prévu, ça.
Non, c'est pas encore. C'est pas encore au point.
C'est pas très au point. Il n'y a peut-être pas encore beaucoup de volontaires, des gens qui accepteraient de se faire congeler pendant 7 mois, de se réveiller à l'arrivée. Ça.
Ah, il y en a eu qui l'ont fait, mais c'est un autre problème. C'est des personnes qui étaient atteintes de maladies, qui considéraient qu'ils se faisaient cryogéniser en espérant qu'on les réveille
le jour
où ils auront soin de trouver la...
Il y en a qui ils sont toujours dans le frigo?
Je pense, oui. Le problème, c'est que je pense qu'on n'en a jamais encore réveillé un.
Oui.
Donc, on ne sait pas si ça marche.
Exactement, ouais. Il faut trouver des volontaires.
Tout à fait. Donc l'évolution donc des systèmes de soutien de vie, c'est de passer d'un système psychochimique à un système écologique biologique dans lequel se trouve l'homme. Donc recréer, comme vous disiez tout à l'heure, un micro écosystème autour de l'homme qui permet
de survivre.
Voilà.
C'est quand même un drôle de challenge.
Tout à fait. Et c'est on n'en est qu'au début. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Les tout premiers travaux ont été faits par les Russes. Dans les années 80, 90, même un peu plus tôt déjà. Et ils avaient une approche assez pragmatique. Puis les Américains sont venus, ont aussi une approche plus rationnelle, plus scientifique. Et les Européens ont suivi aussi, déjà, les Japonais un petit peu maintenant. Les Chinois sont en train de développer à marche forcée des systèmes de soutien de vie.
Oui, parce qu'ils ont l'intention de coloniser.
Tout à fait.
De lancer des bases de vie autour de la Lune. Et sur la Lune, très sérieusement, ils ont les moyens de leurs ambitions.
Tout à fait. Ils sont en train de rattraper, en termes de connaissances, d'acquisition de connaissances et de savoir-faire, les Russes et les Américains et les Européens.
Est-ce qu'il y a une coopération internationale où chacun travaille dans son petit précaré?
Il y a des collaborations. À l'époque où je travaillais à l'Agence spatiale européenne, on a essayé de collaborer avec les Américains. Que leur centre de recherche soit à Cap Kennedy, soit à Houston. Mais c'est tout de même chacun pour soi un petit peu, puisqu'il y a derrière des gros enjeux économiques, industriels.
Oui, parce que
il faut que chaque pays veut retirer les fruits.
Celui qui va découvrir le miracle qui fait que ça marche, il va y avoir un brevet à la clé avec beaucoup d'argent.
Voilà, il aura pas mal d'avantages. Donc c'est pour ça que disons que chaque pays fait un peu chacun de son côté. Sauf l'Europe, où on fait ça à l'échelle européenne.
Oui, mais l'Europe, c'est quand même quelque chose de particulier. Vous travaillez, vous, sur des choses à très long terme. Bon, vous travaillez à l'imparfait.
Oui,
c'est ça. Vous êtes à la retraite. Mais il y a des gens, qui continuent à travailler
tout dessus. Tout à fait.
Et pour les générations futures, effectivement, il y a des voies de recherche très intéressantes. Alors, il faut des mécaniciens, il faut des biologistes, il faut des ethnologues,
il faut des informaticiens. Parce que le système de contrôle étant externe, il sera essentiellement un contrôle automatique d'automatisation et de sécurité. Et le gros travail actuel est d'essayer de programmer, de trouver des programmes qui permettent d'imiter ou de comprendre les mécanismes physiques ou chimiques qui se placent au niveau de la photosynthèse, au niveau de la respiration, pour pouvoir bien contrôler ces flux, puisqu'en réalité, on travaille dans un système où on a des flux de matière et d'énergie.
Oui, il y a des échanges.
Et l'idée, c'est de contrôler la boucle de matière, de flux de matière.
Et l'intelligence artificielle va sûrement permettre de contrôler dans ce domaine-là.
C'est une des voies possibles
de recherche
pour trouver ce genre de système d'automatisation et de contrôle d'un système de support vie. Oui.
Donc, je viens de dire que vous êtes à la retraite. Donc, oui, c'est une activité que vous avez commencée il y a plusieurs années.
Alors, j'ai envie de travailler là-dessus pendant une dizaine d'années, dans les années 90.
Et vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais, disons, entre 34 ans et 42 ans.
C'est pas votre premier travail? Comment ça se fait que vous soyez dirigé dans cette voie?
C'était presque par hasard. Avant de travailler à l'Agence spatiale européenne, j'étais maître de conférence dans une école normale supérieure. Et je préparais des élèves à l'agrégation au CAPES. Mmh. Et dans les domaines de biologie, biochimie, biotechnologie, j'avais des collègues qui travaillaient à l'Université de Toulouse qui m'ont averti que il y avait des sujets potentiels de recherche intéressants, soit au niveau du CNES, soit au niveau de l'ESA. Et un jour, comme ça, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé les gens de l'Agence spatiale européenne, donc aux Pays-Bas, pour leur demander quels étaient leurs domaines de travail, quels étaient les sujets qui pouvaient intéresser mes étudiants, s'ils voulaient faire un DEA à l'époque, ou une thèse,
sur le sujet.
Et donc la conversation s'est développée, s'est augmentée. Et à un moment donné, je leur ai même dit, mais vous avez, les sujets sont tellement importants que vous pourriez même avoir besoin, régulièrement, de quelqu'un qui a mon expérience en biotechnologie pour coordonner ça, pour pouvoir développer ces systèmes de soutien de vie, passer du physico-chimique au biologique. Et là, la personne m'a dit au téléphone, oui, d'ailleurs, si vous voulez, il y a un poste ouvert, mais il faut pas tarder à répondre parce que la clôture de la candidature, c'est aujourd'hui. Le hasard, j'ai donc envoyé, j'ai faxé mon CV et une lettre de candidature. Une semaine après, j'ai reçu l'accusé de réception comme quoi ma candidature était acceptée. Un mois après, je suis parti aux Pays-Bas faire une interview. Et à l'issue de l'interview, ils m'ont dit que si je voulais, le poste était à moi.
Comme quoi, quand il y a une opportunité,
il faut savoir la saisir.
Il faut foncer.
Tout à fait.
Voilà, on ne sait pas forcément où on va, mais on a envie, on se dit qu'il y a quelque chose, il faut y aller.
Voilà.
Il faut être motivé, il faut tenir. Et puis, c'est vrai que dans la vie, après, si vous ne l'aviez pas fait, cette activité se développant, vous auriez vu passer le train et vous n'auriez pas été dedans.
Tout à fait.
Et vous l'auriez regretté sûrement, amèrement.
Je pense, oui.
Donc le conseil qu'on peut donner à nos jeunes auditeurs, c'est ne pas hésiter à se lancer.
Tout à fait. Même si
vous avez une idée, vous avez quelque chose, vous pensez que ça doit marcher, il faut se vendre. C'est ce que vous avez fait, en fait. Vous leur avez téléphoné et vous avez profité d'une discussion, et c'était pas le but au départ.
On n'est plus du tout.
Et d'orienter à votre avantage et en disant mais moi je peux faire, je me sens, j'y vais. Et ils ont dit banco.
Voilà. Et bon, le hasard a voulu que parmi les, je sais plus, une dizaine de candidats, ils m'ont pris tout de suite à l'issue des interviews. Donc je devais apporter, je pense que je devais apporter des compétences qu'il recherchait.
Et je pense aussi une motivation.
Tout à fait.
Parce que aujourd'hui, quand les gens cherchent du boulot, on répond à une annonce, c'est bien, mais la candidature spontanée, pour avoir recruté des gens, c'est toujours plus intéressant de, quand quelqu'un fait la démarche spontanée de venir vers vous en disant j'ai une connaissance, j'ai une passion, j'ai une formation et je peux vous apporter quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui dit ben, j'ai répondu parce que j'ai vu que vous cherchiez quelqu'un comme ça et comme ça. La motivation, montrer qu'on est motivé, même si on force un peu le destin, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et ça, ça marche toujours. Même si aujourd'hui, on a des hommes politiques qui disent des choses un petit peu différentes, mais c'est un autre débat.
Tout à fait. Un autre débat, oui.
Très bien. Et voilà, c'est, ça nous fait découvrir un autre domaine. Ce qui est très intéressant pour moi dans cette approche que j'ai de ces émissions de l'air et l'espace, c'est que justement on touche à des choses que l'on n'a pas l'habitude d'entendre et des domaines qu'on n'imagine pas. Pour caricaturer, on n'imagine pas qu'il y ait quelqu'un qui se creuse la tête pour aller faire pousser des salades dans l'espace. Mais si on ne fait pas ça, on n'ira pas sur Mars et encore moins ailleurs. Parce que malheureusement, on meurt de faim. C'est ce qui est arrivé à des animaux qui sont allés dans l'espace, ils sont morts de faim. Et puis les gens, malheureusement, sur Terre aussi. Si on n'a pas de l'air, de l'eau et de la nourriture, l'organisme humain s'arrête. Comme on n'est pas encore des cyber-robots, on a besoin de ça, on n'est pas des générations qui se nourrissent de silicium. Pas encore.
Non.
Très bien. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
Merci.
Merci à James pour la technique, à François et son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Bienvenue dans Horizon Inaccessible.
Bonjour chers auditeurs.